Bienvenue sur France Inter, merci de nous écouter, il est 8h. Le journal, bonjour Florence Paracuelos.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous. À la une ce matin, des tomates chauffées au fioul dans des serres bretonnes dès la fin de l'hiver. Est-ce que c'est du bio ? Décision très attendue aujourd'hui alors que de nombreux agriculteurs, des élus et des restaurateurs s'insurgent contre ce dévoiement de l'agriculture biologique. Après François de Rugy et ses fastueux dîners, voici le HLM de sa directrice de cabinet. 18 ans qu'elle l'occupe alors qu'elle a passé de longues années loin de Paris. Elle vient de démissionner à la demande du ministre de la Transition écologique. Autant de sujets pour votre invité de 8h20, Frédéric.
Oui, Florence, le grand entretien de la matinale avec le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, David Cormann, également eurodéputé. Nous évoquerons les alliances en Europe, la loi anti-gaspillage, les traités commerciaux, la préparation des élections municipales. On vous attend au 01 45 24 7000 et sur franceinter.fr.
Au sommaire également, les États-Unis se rebiffent contre la taxe GAFA adopté aujourd'hui en France. Il y a de la rétorsion commerciale dans l'air. La visite du plus gros aéroport du monde à Pékin, il sera inauguré à la rentrée. La planche des belles filles, sorte d'Alpes d'Huez vosgien à l'arrivée du Tour de France aujourd'hui. Et puis connaissez-vous les bibliothécaires d'orchestre ? Sans eux, les musiciens ne sont rien. On va faire leur connaissance à Radio France avant le grand concert du 14 juillet au Champ de Mars.
France Inter.
Qu'il est loin le temps du premier congrès de l'agriculture bio. C'était en 69 et le bio à l'époque c'était un truc de baba. 50 ans plus tard c'est devenu un business, une industrie qui rapporte de plus en plus des fraises hors sol importées de Belgique. Ou ces tomates produites au printemps dans des serres chauffées. Cela mérite-t-il l'appellation bio ? La question divise. Célia Kirel sera tranchée aujourd'hui par le Comité National de l'Agriculture Biologique.
Sandrine Lefeur est agricultrice en Bretagne et députée La République En Marche, elle demande l'interdiction de la culture de tomates bio sous serre chauffée car cela suppose de dépenser 250 000 litres de fioul pour maintenir ces serres à 20 degrés, une hérésie climatique.
C'est pas imaginable, en plus dans le contexte actuel avec la loi énergie climat et tout ce qu'on peut voir, de chauffer des serres en bio, ça fait quand même des années qu'on se bat pour que notre label soit reconnu. Si on autorise les serres chauffées en bio, c'est la porte ouverte à tout après, parce qu'on va autoriser les serres chauffées, après on va autoriser le hors-sol, après on va autoriser quelques pesticides. Pour moi, c'est pas possible.
Et parmi les opposants à ces serres, le chef Olivier Rollinger dénonce le productivisme de certains agriculteurs bio.
On est en train de casser le bon sens de ce mouvement de l'agriculture biologique. Des tomates qui sont poussées dans des serres chauffées en hiver n'ont pas de goût et ont une valeur nutritionnelle nettement inférieure. Un produit, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous avec les cerises, c'est un rendez-vous avec les coquilles Saint-Jacques. Et là, au nom du profit, on veut absolument produire. C'est un petit peu comme si demain, nous n'avions plus de saison.
Or, la FNSEA défend ces tomates bio françaises cultivées dès le printemps. Le vote d'aujourd'hui s'annonce compliqué. La voix du ministre de l'Agriculture est décisive.
Et Didier Guillaume, le ministre, a précisé mardi devant le Sénat qu'il n'était pas contre ce chauffage des serres au fioul en agriculture bio.
Et sur la table de François de Rugy, pas de salade de tomates bio, Florence.
Mais de gros homards et des pétrus lorsqu'il présidait l'Assemblée nationale. Il s'en est justifié à 3 reprises hier après les révélations de Mediapart. La dernière fois dans la nuit sur Facebook pour dénoncer des insinuations alimentées par une source anonyme et malveillante. Mais ce matin, c'est sa directrice de cabinet au ministère de la Transition écologique, Nicole Klein, qui démissionne à la demande du ministre, dit-elle à Ouest-France, après un autre article de Mediapart sur son logement HLM parisien, occupé depuis 18 ans, alors qu'elle n'a travaillé que 6 ans dans la capitale, Clémentine Vergniaud.
Ce logement, c'est le ministère de l'équipement qui lui attribue. On est en 2001, elle vient d'être nommée adjointe au directeur général de l'urbanisme et bénéficie donc d'un appartement situé dans le 14e arrondissement de Paris. L'entrée dans les lieux se fait dans des conditions parfaitement légales, se défend Nicole Klein. Sauf qu'entre 2006 et 2018, elle occupe pas moins de 5 postes différents dans des préfectures en province. Elle effectue aussi un passage à l'agence régionale de santé d'Aquitaine et pendant ce temps, elle conserve son logement social. Une situation légale, affirme la directrice de cabinet de François de Rugy. C'était ma résidence principale, se justifie-t-elle. Elle assure qu'elle y revenait régulièrement le week-end et qu'elle compte changer de logement bientôt. Si elle ne l'a pas fait, ce serait par manque de temps, assure-t-elle. Contactée par Ouest France hier soir, Nicole Klein a annoncé sa démission. Elle explique « C'est François de Rugy qui souhaite expressément que je parte ».
Benjamin Griveaux pour Paris, comme une décision cousue de fil blanc, c'est lui qui a été investi pour la bataille des municipales hier soir. L'ancien porte-parole du gouvernement a fait l'unanimité à la commission d'investiture, mais il attend toujours le ralliement de son rival malheureux Cédric Villani, qui ne s'est pas encore prononcé pour la suite. Et puis à Lyon, rien n'est encore tranché et Gérard Collomb, qui proposait un ticket à son adversaire de La République En Marche, vient de prendre un soufflet. David Klimenfeld refuse de partager le prochain mandat à la tête de la métropole. Il dénonce de petits arrangements irrespectueux et illisibles.
121 femmes tuées par leur conjoint ou par leur ex l'an dernier en France.
Trois jours après l'annonce d'un Grenelle des violences conjugales, ces chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur hier redonnent la mesure du fléau des féminicides, de ces coups fatals souvent portés après une longue série de violences que leurs victimes peuvent dénoncer désormais sur un portail internet du ministère. Ça fait quelques mois qu'il existe, Emmanuel Leclerc.
C'est le dernier dispositif mis en place pour tenter de libérer la parole des victimes, pour favoriser des signalements sur des violences. Ouvert en novembre dernier, des policiers 24 heures sur 24 qui dialoguent sur la toile par des chats de conversation. 31 minutes de durée de conversation en moyenne et qui peuvent se terminer par des dépôts de plainte. Dans ces cas-là, ce sont les policiers de la plateforme qui prennent rendez-vous directement avec des agents référents pour éviter aussi de s'expliquer publiquement à l'accueil dans les commissariats. Sandrine Masson est la commandante qui dirige cette unité basée dans les Yvelines en Ile-de-France.
Nous avons plus de 3600 chats depuis le 27 novembre et les rendez-vous sont pour plus de 30% de ces chats-là.
Sandrine Masson raconte avoir reçu d'autres signalements par Internet, comme ce voisin témoin sonore de violences conjugales.
Sur Lyon, un témoin a rencontré sa voisine, le visage tuméfié, a pu faire appel au portail. Et ainsi, le monsieur a pu être convoqué en justice, même si la dame n'a pas souhaité déposer plainte et a été entendue par les services de police.
Quand il n'y a pas de nécessité ou de volonté de dépôt de plainte, la plateforme nationale renvoie régulièrement sur un réseau d'associations spécialisées sur les violences faites aux femmes dans les départements concernés.
Et puis des violences contre les femmes dans les festivals. Festival d'été, un homme est toujours recherché depuis la fin des Eurocaines de Belfort après la plainte d'une jeune femme de 17 ans pour viol. Un autre sera jugé pour agression sexuelle lors du même festival.
France Inter, 8h07, taxer les GAFA sur leurs profits faits en France.
La loi en passe d'être adoptée définitivement au Parlement aujourd'hui fait grincer Washington. Le représentant du commerce américain annonce une enquête sur les effets de cette taxe sur les grands groupes du pays, Loïc Loury, avec deux possibles représailles commerciales à la clé.
Une menace à peine voilée contre la France, voilà ce que signifie le lancement d'une telle enquête ordonnée par Donald Trump. Dans un communiqué, son représentant au commerce dénonce cette taxe dite GAFA. Nous allons, dit-il, en examiner les effets et déterminer si elle constitue un poids ou une restriction au commerce des États-Unis. La taxe française sur les géants du numérique ne concerne certes pas uniquement des entreprises américaines, mais elle viserait Google, Amazon, Facebook ou Apple, des sociétés numériques qui réalise de gros chiffres d'affaires sur le sol français mais ne paye que peu d'impôts. Mesure injuste, dénonce donc Washington et les poids lourds de la Silicon Valley. Justice fiscale, leur répond Paris. La suite, après une enquête d'un an tout au plus, ce sont donc de possibles représailles. Donald Trump, en effet, a utilisé le même outil pour attaquer la Chine dans le cadre de la guerre commerciale toujours en cours entre les deux géants. Un bras de fer qui risque de tendre encore les négociations actuelles entre les États-Unis et l'Union européenne. New York, Loïc Loury, France Inter.
Encore un incident dans le golfe Persique. Des bateaux armés iraniens ont essayé de saisir un pétrolier britannique repoussé, selon CNN, par une frégate de la Royal Navy qui a pointé ses armes sur les Iraniens. Téhéran dément ce matin avoir harcelé le tanker britannique. En Algérie, c'est un député islamiste qui prend la tête de l'Assemblée nationale. Il était l'unique candidat après la démission de son prédécesseur, contesté au sein même de son parti et dans la rue parce que jugé trop proche du système. Artem Bouteflika.
Direction Pékin maintenant pour les finitions du plus grand aéroport du monde.
Conçu par la France et construit par la Chine, il sera inauguré à la rentrée par le président Xi Jinping pour faire face au trafic aérien qui augmente chaque année de 7 à 10% là-bas. Il accueillera à terme 100 millions de passagers par an. Dominique André l'a visité pour nous en avant-première.
L'aéroport ressemble à une gigantesque étoile de mer dotée de 5 branches qui mènent aux avions. Le terminal unique, vert et intelligent est conçu par la filiale ingénierie d'ADP dirigée par Gracien Maire.
On recourt à des matériaux innovants, à la géothermie, aux cellules photovoltaïques. On utilise des véhicules électriques de manière à diminuer autant que possible l'empreinte carbone de l'aéroport. Partout, vous avez des systèmes qui font appel à des nouvelles technologies, tout ce qui est big data, intelligence artificielle, qui vont permettre aux passagers de se diriger de façon naturelle en utilisant les outils modernes comme les smartphones.
C'est unique au monde, les trains express arriveront directement dans le sous-sol de l'aéroport. Les arrivées et les départs des vols domestiques se feront au même étage. Les passagers feront donc leurs achats dans la même zone commerciale où Thierry Bardou supervise l'installation de panneaux publicitaires démesurés pour le groupe français JC Deco.
La taille des aéroports en Chine nous a amené à développer des formats assez exceptionnels, qu'ils soient verticaux, qu'ils soient horizontaux. Tous ces nouveaux aéroports sont des opportunités extraordinaires pour accompagner les marques sur le marché chinois.
Conçu par la France, construit par la Chine, le plus grand aéroport du monde sera inauguré par Xi Jinping le 30 septembre. Pékin, Dominique André, France Inter.
Et si vous voulez voir à quoi ressemble ce futur aéroport, rendez-vous sur franceinter.fr. Un train télécommandé à circuler en région parisienne. Étape majeure dans la mise au point de trains autonomes, annonce la SNCF. L'expérience remonte au mois d'avril et tout s'est bien passé, à l'inverse de la circulation des trains qui risque d'être très perturbée dans la région lyonnaise à partir de ce soir et jusqu'à samedi matin. Grève des aiguilleurs à l'appel de la CGT, la CFDT et Sudrail. Il manquerait, selon eux, 9 postes d'aiguilleurs dans la région. Un échec à Kourou cette nuit. La fusée Vega, lanceur léger d'Ariane Espace, n'a pas réussi à mettre en orbite un satellite pour les Émirats Arabes Unis. Elle se serait perdue 2 minutes après son décollage. Sa trajectoire a dévié de la normale puis s'est nettement dégradée. C'est contenté de dire Ariane Espace. C'est le premier échec d'une fusée Vega depuis le lancement du programme en 2012. Aux États-Unis, le rappeur Jay-Z se lance dans le business du cannabis. En Californie, il vient d'être nommé stratégiste en chef de Caliva, l'une des principales entreprises du secteur dans cet état où la fumette est légalisée. Il jouera un rôle essentiel dans l'orientation des tendances créatives, de la diffusion et de la stratégie de la marque, indique son nouveau patron. La première étape stratégique du Tour de France. Aujourd'hui, départ de Mulhouse jusqu'en haut de la planche des belles filles. Pas le plus haut, mais le plus raide des sommets à l'arrivée. C'est la 4e fois que ce sommet vosgien est programmé sur le Tour. Fabrice Rigobert, c'est en passe de devenir un classique.
Tous ceux qui ont endossé le maillot jaune au sommet de la planche des belles filles ont gagné le Tour de France. Ajoutez à cela une foule toujours impressionnante pour voir les grimpeurs se déhancher sur une pente à 20%. Et vous avez les ingrédients qui vont finir par faire de ce lieu l'Alpe d'Huez des Vosges. Pour corser le tout, les organisateurs ont même choisi de rallonger la montée, précise Thierry Gouvenou, en charge du parcours.
Alors on a déjà une pente moyenne assez haute, aux alentours des 8%. Mais surtout, on a allongé exactement de 1100 mètres. Mais surtout, on a remis une pente, un passage de 350 mètres à une vingtaine de pourcents de moyenne. C'est vrai que ça va faire une arrivée vraiment assez exceptionnelle.
Un dernier kilomètre empierré avec un replat et un second mur. Une montée de 7 kilomètres redoutée, confie Nicolas Roche, coureur de la Sunweb.
Elle est raide, relativement courte, mais suffisamment longue pour que ça fasse vraiment mal. Il faut être un peu maso pour aller se lancer dans des côtes de 25%. Les côtes déjà à 9-10%, c'est bien plus que suffisant. Après, bon, est-ce que ça va vraiment faire la différence? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça va faire du spectacle.
Il faut sans doute être du coin comme Thibaut Pinot pour apprécier l'endroit, le franc-comtois qui rêve d'un exploit. Mulhouse, Fabrice Rigobert, France Inter.
Voilà, mais pour l'instant, c'est toujours Julien Alaphilippe qui porte le maillot jaune. À Wimbledon, avis aux amateurs, demi-finale Federer-Nadal demain, un mois après celle de Roland-Garros, mais cette fois sur gazon, ce qui semble plus jouable pour le Suisse. Enfin
ça répète dur à Radio France.
Mais oui, à quelques jours du grand concert du 14 juillet sur le Champ de Mars, où se produiront l'Orchestre National de France, le chœur et la maîtrise de Radio France, qui ne travaillent jamais sans les bibliothécaires d'orchestre. Métier méconnu, mais indispensable pour préparer les partitions des musiciens. Alors eux aussi sont en ébullition. Ça se passe au 11e étage de la tour centrale de la maison de la radio, Thibault Lefèvre.
La photocopieuse fonctionne à plein régime, car le temps presse.
Là, on est en train de finaliser, parce que les musiciens demandent les partitions. Donc là, il faut qu'on leur envoie très très vite.
Dans les mains de Maud Roland, la responsable de la bibliothèque d'orchestre, une partition dite trompette 4, cornet 2.
Trompette 4, cornet 2, c'est que dans un orchestre, en fait, chaque musicien est réparti dans un pupitre et donc on façonne les partitions en fonction de ce que chaque musicien va prendre comme instrument.
Maud Roland et son équipe doivent produire en quelques jours 260 cahiers de partitions piochés pour beaucoup dans un fonds propre de près de 20 000 documents. C'est ensuite un travail d'orfèvre.
Le boulot de la bibliothèque d'orchestre, c'est de faire en sorte que les musiciens n'aient pas de questions à poser au chef d'orchestre, qui ne lui demande pas où est-ce qu'on finit, est-ce que là c'est piano ou fortissimo. C'est tout à la main. Si on n'était pas là, ce serait beaucoup plus difficile peut-être pour les musiciens.
Confirmation, 11 étages plus bas, dans l'auditorium de la Maison de la Radio, où l'Orchestre National de France répète la 9e symphonie de Dvorak. Florent est violoncelliste, il travaille sur une partition éditée par la bibliothèque.
C'est des métiers, effectivement, qui sont complètement complémentaires du nôtre. Nous, on est dans la lumière le jour du concert. Eux sont dans l'ombre, on n'en parle pas assez.
Et pourtant, la bibliothèque d'orchestre de Radio France est la plus importante du pays. Elle produit des partitions pour près de 300 concerts par an.
Frédéric,
on va faire les chœurs.
Alors, concert à suivre, ce sera quand même beaucoup, beaucoup mieux que ce qu'on peut faire.
Ouais,
dimanche.
Mieux que nos pom-pom-pom-pom, hein, Florence.
Dimanche en direct sur France Inter à partir de 21h.
C'est bien noté, c'était le journal de Florence Paracuelos.